à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Faites Valser Vos Idées, l'émission qui secoue les ménages sans se prendre la tête. On commence de suite avec Max.
Salut tout le monde, et voilà, c'est la dernière émission de l'année. Alors, vu que je me retrouve tout seul aujourd'hui dans cette aventure radiophonique, et en attendant que la situation s'arrange, je me suis penché sur la recherche de sujets pour les interviews. C'était la valse des idées dans ma tête, des questions à poser comme « Peut-on encore faire la fête sans drogue ? Sommes-nous encore humains ? Ou avons-nous été formatés pour être des consommateurs sans âme ? Pourquoi méprisons-nous les gens sensibles ? Notre planète est-elle une prison ? Qui est l'anonyme enterré au village ? Qui gagnera la guerre de la plage aux crottes de la roque ? Etc, etc. Bref, des questions à foison, mais aucune qui me fasse l'effet enclume comme sur la tête du coyote dans nos bons vieux dessins animés de Tex Avery. J'ai beau courir dans le désert de mes pensées, je ne rattraperai jamais ce satané bip-bip. Alors, je vous propose de m'aider et donc de partager vos idées pour les interviews de l'année prochaine, que vous pourrez laisser au standard de Radio Escapade.
Il n'y a pas de standard à Radio Escapade.
Ah merde. On peut laisser ton numéro de téléphone ?
Non.
Et oui. Parle dans le micro.
Bonjour.
C'est Radio Escapade.
C'est Radio Escapade.
C'est une interview.
Une interview.
Ah ouais, mais faut que tu parles dans le micro.
Et oui, il faut parler dans le micro, c'est une interview. Mais ouais, en fait, on voulait votre avis sur ce spectacle. On sent que quand même, il y a du potentiel, hein, mais ça, c'est
ouais,
pas un problème. Hein. Ça va marcher un jour, c'est sûr.
Tu crois ?
Oui, ça va marcher, ça va marcher.
Bon, bah merci. Mais bon, je recherche un peu le bonheur et j'ai du mal à le trouver. Voilà. Pourtant, je vais me promener dans la nature, hein, tout ça, mais j'ai du mal.
Bah,
j'ai
c'est
du
pas
mal.
Facile, ouais. Il faut le trouver avant d'y passer.
Avant d'aller dans la nature, je...
Voilà, ah, ouais. Avant de partir.
Ah, ben, c'est
d'ailleurs, on entendait tousser, donc je rebondis là-dessus.
Oui, je me permettais de rire parce que, écoutez, j'étais extrêmement touché par le bonheur là, dans mon âme, d'un seul coup, il s'est répandu. Je l'ai senti de l'extrémité de mes cheveux jusqu'au bout de mes orteils. Le bonheur m'a envahi, m'a submergé. Je suis bouleversé par cette expérience physico-spirituelle que nous avons fait à des acteurs mais géniaux,
ben oui.
Vraiment extraordinaires. Comment ils y dépotent. Je ne sais pas comme ça, comment est-ce que ce metteur en scène a pu... aller découvrir ses talents cachés, mais je suis bouleversé.
C'est la chance, ça doit être ça.
C'est ça.
Il nous a trouvé, faut ouais, avouer que.
Il a ce talent, c'est un véritable découvreur.
C'est vrai. Hein, un aventurier. On peut du théâtre.
On peut lui reconnaître cette.
Ah, mais celui qui cherche trouve, hein, c'est bien connu, et c'est ainsi qu'on peut trouver le bonheur.
Oui, c'est ça l'aventure. Attends. Il était génial. Voilà, Jaoui, viens, on va interviewer les filles. Bonjour mesdemoiselles, mesdames.
Bonjour.
C'est une interview pour Radio Escapade avec Jaouid.
Jaouid, il a 4 ans, il a regardé le spectacle et il a adoré.
Ouais, il est déjà intervenu dans l'interview précédente.
D'accord. Ouais.
Et voilà. Et vous l'avez vécu comment alors, votre spectacle ?
Et nous, on l'a vécu dans l'intérieur. C'était assez intense parce qu'on a apprécié jouer chaque petit passage.
Ah bah ouais, c'est bien, ouais. Et quoi, le passage sous la porte, le passage dans le sable, le moment où tout le monde se casse la gueule, ou surtout quand moi je joue en fait, c'est ça?
C'est surtout quand Max et Jaco jouent et...
Il était bon le passage, sincèrement.
T'avais un oubli à un moment.
Sincèrement, on est fiers de vous, vous n'êtes pas gourés.
Bah la Tifa, elle vient de me balancer là.
Ouais. Non, bah, c'est...
Mais ça n'a pas été remarqué, hein.
Personne n'a rien remarqué, c'est passé...
Bon, ça va, il n'y a plus personne
non,
là.
Non, non, ça va, c'était sympa.
C'était court.
Ouais, c'était
trop
court.
Intense, surtout. Pour une première fois, pour une sortie de résidence, je trouve que c'était bien.
Ouais. Voilà. On a eu que quelques jours de boulot.
Voilà,
et
quelques
c'est une
jours de
d'un
boulot,
spectacle.
Pour même pas une semaine de répétition, je trouve que c'était. Pour même pas une semaine de répétition, je trouve que c'était bien. Ouais. J'espère qu'on aura assez de temps pour répéter tout ce qu'il nous reste à présenter.
Ouais. Allez, on dit merci.
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 Et au revoir.
Et au revoir.
C'était Oxford Coma de Vampire Weekend. Et maintenant, à toi Jean-Michel. Et salut les louloutes, ainsi qu'à tout le monde, ça va ou quoi?
Hey
ouais, j'ai rien entendu.
Ouais.
Et ouais, bah voilà, nous y sommes, c'est la dernière rubrique sur Ange, pour la dernière de la première saison de Faites Valser vos idées. Nous avons célébré dignement, je pense, les 50 ans du groupe. Remercions encore pour nous avoir fait voyager ces anciens membres du groupe. Francis Descamps, au chant au clavier de 1970 à 95. Jean-Michel Brézovar, flûte et guitare, 1970 à 77. 1988, 89, 1991, 1995. Jean-Claude Rio, guitare rythmique, 1970-1971. Patrick Karchanian, basse, flûte. 1970-1971, Daniel Haas à la basse, Gérard Gels à la batterie et percussion, Guénol et Bilger à la batterie et percussion, Jean-Pierre Guichard à la batterie, Claude Demet,
Gérald Renard, Robert Defer, Didier Visseux, Serge Queneau, Laurent Sigrist, Jean-Claude Potin, Martin Kesselburg, Francis Meyer, Fabrice Bonin, Hervé Rouillet et Caroline Croza. Remercions aussi les membres actuels du groupe qui nous font et nous feront encore, je l'espère, triper longtemps. Christian Descamps au chant, clavier additionnel, guitare acoustique et accordéon depuis 1970. Eh oui, ça nous rajeunit pas. Tristan Descamps, clavier, chœur, chant depuis 1999. Hassan Hadji à la guitare depuis 1999. Thierry Sidoum à la basse depuis 1999. Benoît Casulini à la batterie depuis 2003. Séraphin Palmieri, clavier additionnel depuis 2023. Il faut savoir que de 1977 à 2020, il y a eu pas moins de 20 albums live et des centaines de concerts en France et à l'étranger. Des dizaines de techniciens pour la scène, des techniciens pour le son, pour la lumière, mais aussi des centaines de bénévoles qui s'activent toujours. Voici les 4 derniers albums studio en attendant Cunégonde, le 25e. Album studio qui sortira, espérons-le, soit en fin de l'année 2024, soit 2025. Donc en 2010, Le Bois travaille même le dimanche. En 2012, Moyen Âge. En 2014, Émile Jacoté, Résurrection. En 2018, Heureux.
Et merde à la guerre. Vraiment, merde à la guerre. Assez, c'est déjà trop.
Et l'on dit sur moi tant de choses. Et l'on dit sur nous tant de mal. En tout état de cause, je m'en balance. Excusez du peu, je suis heureux.
Allez, alléluia, allez, alléluia.
Et l'on tire sur moi tant de bombes. Et l'on fait de nous tant de cibles. En tout cas, en tout état de cause, je m'en balance. Excusez du peu, je suis heureux.
Allez, alléluia, allez, alléluia, petit chaperon rouge.
J'ai vécu le pire des mondes, police au pays des merveilles, décompté chaque seconde sous le ciel, aujourd'hui comme hier.
Idem pour demain, je regarde couler la rivière, je n'ai qu'une idée, oublier le temps avant de passer la frontière.
Thank you.
Alors, c'était Hors la loi de l'album Le bois travaille même le dimanche de 2010. Alors, si vous le désirez, vous pouvez retrouver pratiquement tous les albums de Ange en concert ou en studio sur YouTube. Et en écoute gratuite, tapez Ange album complet si vous cherchez encore plus d'infos sur le groupe, les concerts à venir, l'actu. Tapez Un pied dans la marge sur Internet. C'est l'association qui s'occupe de la promo du groupe. Vous aurez tous les renseignements. Et maintenant, les dernières interviews de la saison avec Max.
Je parie que vous n'aimez pas être interviewé.
Pourquoi il y a un plus mot?
Surtout par Radio Escapade, surtout par moi, ça serait la meilleure.
Moi, j'adore
dire,
Radio Escapade.
Hein, ça, elle s'en va, et voilà, non, j'arrive.
Je fais une
et
les photo pendant que tu les interviews.
Ah d'accord, ok, dans
c'est
ce cas-là,
ça
va.
Je me pousse, ouais,
j'adore Radio Escapade.
Tiens, tu peux te justifier sur le truc, comme ça je...
Oui, donc je vais faire des photos pendant que tu interviews les actrices.
Voilà, ouais, on a du succès, vous croyez quoi? C'est parce que j'ai super bien joué. Hein, t'en penses quoi, Olivier?
À Radio Escapade, c'est génial. Ah oui, mais t'as très bien joué, franchement. Je ne connais pas depuis très longtemps, mais tu le fais avec tout ton cœur, ouais. Et tu es bien présent.
Et je me sers de la radio en plus pour me faire mousser, c'est
et
la
ben,
totale.
Voilà, tant qu'à faire, pourquoi pas, c'est plus
bah
c'est
ouais. Puis c'est rigolo pour les interviews.
Voilà.
Merci Odile.
Il faut interviewer les enfants.
Ouais, mais on l'a fait déjà, il est sur chaque interview. Ah, et encore Jawid, t'es encore là.
Oui.
Et il y a Ayette aussi.
Ravi de ce spectacle offert à la cause de la selle, aux causes de la selle. C'était une très belle expérience.
Ouais, Ayette, c'était l'esprit.
Vive Radio Escapade.
Fuku no Kami, ça s'appelle la pièce. Fuku no Kami, c'est du japonais.
Ce sont des farces japonaises. Ouais. Et la prochaine aura lieu le 9 août à la Grange à Bouillon-Cube.
Bonsoir. Ouais.
Et on chante, il se passe plein de choses
juste
pendant ce
avant,
spectacle.
Titi Robin.
Et oui, il y a Titi
on
Robin
passe
quand
avant
même.
Titi Robin. Voilà.
Voilà.
Il y aurait jamais de cette magnifique place du port de la Pelle que je ne connaissais pas vraiment et qui est très agréable, aérée, avec de beaux arbres, un calme, des crapauds qui se.
Et il y a l'association Bouillon Cube qui a installé plein de trucs et qui était super sympa avec nous.
C'est vrai. Avouer. Et on y a passé 5 jours à la Grange.
Ouais. En résidence. Merci.
Merci Max.
Et oui, il faut finir. Et là, on finit avec Jawid. Hein, on fait une belle interview. Alors, comment t'as trouvé ce spectacle? Il y avait ta maman
très
dedans.
Bien. Très bien avec toi. Et trop bien. Et c'était trop bien, mais pas trop parce que... Et il y avait tout le monde et tout le monde n'arrêtait pas de parler, de rigoler et voilà.
Ah bah ça c'est parce qu'il y avait beaucoup d'ambiance, ah ouais c'est sûr c'est pas facile à gérer. Hein. Mais ta maman tu l'as trouvée comment?
Trop bien et c'était trop bien le spectacle et moi je vais m'enfuir tout de suite et au revoir Max.
Au revoir.
Feel the way that every child
school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Mad world. Mad world.
C'était Mad World, interprété par Jasmine Thompson. Et maintenant, c'est à Jean-Pierre.
Et oui, chers auditeurs de Radio Escapade, si le nom de Margaretha Zell ne vous évoque rien de particulier, celui de Mata Hari vous parlera sans doute un peu plus. Mata Hari, c'était une danseuse soi-disant indienne, très célèbre au début du XXe siècle. À 19 ans, elle épouse sur un coup de tête un capitaine nommé MacLeod. Celui-ci est un homme violent et agressif. Et dans le cadre de son métier, il l'emmènera à Java, ce qui sera l'occasion pour elle de commencer à fricoter avec la bonne société. Et bientôt, Mata Hari bénéficiera d'une grande renommée qui commence en 1905 à Paris, lorsqu'elle exécute brillamment des danses venues de l'Inde lointaine. Légèrement vêtue, c'est une femme attirante, gracieuse et habile qui va fasciner le public et sa célébrité va s'étendre comme une traînée de poudre partout en Europe. Elle va faire illusion un certain temps, mais bientôt, on va découvrir qu'elle n'est pas née en Inde, mais aux Pays-Bas, et qu'elle a une fâcheuse tendance à mentir. Mais qu'importe, le phénomène Mata Hari a pris, et pendant des années, elle va fréquenter les plus grands d'Europe, militaires, politiciens, diplomates, financiers, etc., etc., à l'occasion de ses déplacements nombreux. Mais voilà, les choses finissent par se compliquer. Mais pour quelle raison? Eh bien parce que nous entrons dans une période de conflit, la Première Guerre mondiale est sur le point de commencer, l'heure n'est plus vraiment à l'insouciance et aux frivolités, et les nombreux déplacements de Mata Hari finissent par intriguer et deviennent suspects pour les représentants français. Et puis après tout, il y a de quoi. Elle est l'amie, et peut-être même l'amante, d'officiers allemands, entre autres, et elle fréquente aussi d'importants personnages français, britannique ou russe. Et puis la Première Guerre mondiale finit par éclater. Les Français et les Anglais soupçonnent la danseuse de trahison et d'être une espionne à la solde des Allemands. Elle est déjà sous surveillance quand, en 1916, elle demande à aller à Vittel pour s'occuper des blessés. Et c'est d'ailleurs dans cette commune que se construit un aérodrome secret. Mais la danseuse ne fait que s'occuper des blessés. Il n'y aura rien sur le plan de l'espionnage. La même année, elle se dira amoureuse d'un officier russe et avoir besoin d'argent pour l'épouser. Les services français en profitent pour la mettre à l'épreuve et décident de la tester pour savoir ce qu'il en est réellement. Une fausse mission qui va la conduire en Belgique, mais en passant par Lisbonne, va lui être proposée. De sa propre initiative, au cours de sa mission, elle va faire un détour par Madrid, là même où un grand centre d'espionnage allemand se trouve. Elle va obtenir des informations d'un militaire allemand nommé Von Kahl, qu'elle va répéter aux autorités françaises. On pourrait dès lors la croire lavée de tout soupçon, mais ce n'est pas le cas, car il se pourrait qu'elle soit aussi un agent double et la surveillance de la danseuse continue. Un peu plus tard, les Allemands exécutent un agent double dont le nom sera volontairement confié à Mata Hari, qui le répétera aux Français. C'est alors pour ces derniers la preuve de sa culpabilité. Le problème, c'est que les Allemands finissent eux aussi par se méfier d'elle et ils vont finir par la lâcher. Un de ses amants probables, le général Von Kahl, que j'évoquais tout à l'heure, va envoyer un message codé de Madrid à son état-major. Mais ne faisons pas preuve de naïveté. Les Allemands se doutent que le message sera intercepté et décodé. Le message évoque un excellent agent d'avant-guerre qui n'a rien donné de sérieux depuis la guerre. L'agent H21 doit rentrer en France et continuer sa mission. Il recevra 5000 francs. Matahari est égal H21. Son sort est désormais scellé. Le 14 février 1917, elle sera arrêtée à Paris au retour de sa mission. Interrogée, elle commencera d'abord par nier les faits, avant de les reconnaître, mais d'expliquer qu'elle s'est approchée des Allemands dont le but est de fournir des renseignements aux services français. Alors, on lui met sous le nez le fait qu'elle ait accepté de l'argent, 30 000 marques. Elle explique que c'est son amant qui lui a donné et que c'était un cadeau. Son amant n'étant rien de moins que le chef de l'espionnage allemand. Sa défense consiste à dire qu'elle ne leur a donné que des informations sans importance, des secrets de Polichinelle. Malgré cela, elle sera condamnée à mort car Raymond Poincaré, le président de la République, n'accédera pas à sa demande de grâce. Alors avec le recul, on sait que ce n'était pas l'agent 007, mais plutôt un espion amateur, maladroit, qui n'a fourni que des informations sans beaucoup d'intérêt, qui n'aurait probablement rien changé au conflit. Ce qui semblait la caractériser plutôt, c'était l'argent facile, l'appât du gain, l'amusement, la danse, l'insouciance. Malheureusement pour elle, sa condamnation pour intelligence avec l'ennemi en temps de guerre en décidera autrement. Le 15 octobre 1917, Matahari sera réveillé dans sa cellule. C'est l'heure de son exécution. Conformément à sa passion pour la danse, elle aura un soin particulier pour sa toilette et enfilera des gants et une jolie robe bleue. Elle refusera le bandeau sur les yeux et d'être attachée au poteau. On raconte même qu'elle fera un petit signe amical aux 12 hommes qui sont là pour ses derniers instants. Son corps n'aura été réclamé par personne et il sera donné à la faculté de médecine où il finira sur la table de dissection. Votre nom ?
Matahari.
Ah oui, c'est une console de jeux vidéo.
Ah non, ça c'est Atari.
Matahari. Clint Eastwood, c'est Clint Eastwood.
Bah non, ça c'est l'inspecteur Harry.
Attends, ça y est, je l'ai. C'est l'ennemi juré de Sherlock Holmes.
Ben, toujours pas, ça c'est Moriarty. Hein.
Matahari. Kiri, c'est le fromage.
Ah oui, c'est la culotte courte.
Ah, oh, laissez ma culotte tranquille.
Où est-elle d'ailleurs, votre culotte ?
Elle voyage, elle est comme mon cul, international.
C'est bien le problème. Un dernier souhait ?
Oui, échapper au harakiri.
Tout son cérémonial me fait du bien du mal.
C'était Gilles Kaplan avec l'Hôtel des Quatre Malheurs. Et tout de suite, on poursuit avec Jean-Michel.
Nous faisons toujours valser vos idées sur Radio Escapade, 104.1 à Saint-Hippolyte-du-Fort, 102.0 à La Salle, 103.3 à Ganges et au Vigan, sur Internet, dans le monde entier et dans tout l'univers connu, sur radioescapade.org. Quand je ferme les yeux, je vois les gens et j'imagine vos vies où vous étiez là juste avant. Pourquoi vous êtes venus ? Même quand je ferme les yeux, je vois les gens et j'imagine vos vies où vous étiez là juste avant. Pourquoi vous êtes venus ? Pourquoi vous êtes restés ? Thank you.
c'est que ça vous a plu? C'est que ça vous a plu? Est-ce 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 que vous reviendrez? Est-ce que vous reviendrez? Est-ce que vous reviendrez? Est-ce que vous reviendrez? Bah, quand je ferme les yeux, je vous vois les gens. Et j'imagine vos vies où vous étiez là juste avant. Pourquoi vous êtes venu ici? Pourquoi vous êtes resté? C'est que ça vous a plu? C'est que ça vous a plu? Est-ce 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 que vous reviendrez? Est-ce que vous reviendrez? Est-ce que vous reviendrez? Est-ce que vous reviendrez? Même quand je ferme les yeux, je vois les gens. Et j'imagine vos vies où vous étiez là juste avant. Pourquoi vous êtes venu ici? Pourquoi vous êtes resté? C'est que ça vous a plu? C'est que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que tu reviendras? Est-ce que tu reviendras?
Alors, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous reviendrez? Est-ce que tu reviendras? Est-ce que ça t'a plu? C'était final de l'album Ça me vexe de Mademoiselle K, sorti en 2006. À toi, Lydia.
Bonjour tout le monde, et c'est bientôt l'été. Et si vous avez ni l'envie de découvrir nos montagnes, nos rivières, nos plages, aller visiter les Pays de Loire et leurs châteaux, faire la route des vignobles, c'est marrant la route des vignobles comme nom, vu qu'il ne faut pas boire si on a bu. Je vous dirais bien de choisir le bus, hein, vous enfermez le chauffeur à l'intérieur, au moins il ne boira pas. Bon. Si vous préférez votre canapé à tout ça, vous aurez les Jeux Olympiques de Paris à regarder. Eh oui, nous avons donné suffisamment de cadeaux, de garanties au comité olympique pour qu'ils nous choisissent, nous, la France. J'ai appris un tas de choses sur les Jeux Olympiques en m'y intéressant d'un peu plus près. Tout d'abord, le premier avantage mis en valeur pour recevoir les Jeux Olympiques, c'est qu'ils offrent, je cite, une opportunité unique de promouvoir Paris et tout ce qu'elle a à offrir. La ville sera sous les feux des projecteurs pendant plusieurs semaines, attirant ainsi l'attention du monde entier. Cela permettra de renforcer l'image internationale de Paris en tant que destination touristique de premier plan. Alors oui, d'accord, mais bon, Paris c'est déjà la ville la plus visitée du monde. Et si on y regarde vraiment de près, l'effet du tourisme pendant les Jeux est limité. Car l'afflux de spectateurs conduit à une éviction du tourisme traditionnel et d'affaires pendant cette période. Ok, les spectateurs présents effectuent des dépenses. Mais par exemple, Pékin a observé en 2008 une baisse de 30% du tourisme international et de 39% de la fréquentation hôtelière pendant le mois des Jeux. Les bénéfices pour l'activité locale sont également à relativiser. Si on observe un regain d'activité pour les restaurants, les autres types de commerces sont affectés. Donc bon, hein, niveau tourisme, ça ne va pas vraiment doper Paris. J'ai aussi appris que le budget présenté quand un pays candidate pour organiser les Jeux olympique explose toujours et que c'est la norme. Et donc, pour la France, le budget était de 3,2 milliards. Actuellement, la facture totale des JO de Paris frôle les 9 milliards d'euros, dont un peu plus de 2,4 milliards d'argent public. Oui, oui, ce n'est pas l'État, c'est-à-dire nous qui finançons tout ça, hein. C'est le comité des Jeux Olympiques avec la billetterie, certains partenariats avec des entreprises, etc. En gros, ils ont 96% du budget, c'est eux. Les Jeux financent les Jeux, pour faire simple. Et Solideo est chargé de livrer tous les sites de compétition et de non-compétition nécessaires aux Jeux. 1,2 milliard sont à la charge de l'État français, considérant que les infrastructures bâties resteront en héritage aux pays hôtes. Ainsi, le village olympique sera transformé en appartement, en logement, par exemple. S'ajoutent aussi les surcoûts liés aux frais de sécurité, également à sa charge. Tout n'est pas encore compté, facturé, additionné, et il est vraisemblable que la note finale dépasse les 10 milliards d'euros. Mais qu'on ne s'affole pas. Amélie Oudéa-Castéra a dit qu'il n'y avait aucune raison de penser qu'il y aura un déficit. Oui, parce qu'en cas de déficit, c'est l'État qui interviendra, vu qu'il a donné une garantie de 3 milliards d'euros. Elle a aussi dit qu'il n'y aura ni dérive budgétaire, ni coût caché. Alors là, je ne suis pas certaine que cela soit très encourageant. Rappelez-vous, Amélie Oudéa-Castéra, c'est la ministre qui, quand elle ment, elle ment, prétend que c'est juste la réalité qui lui donne tort. Donc, pour l'état du déficit actuel, comme je ne sais pas si elle parle de sa vérité ou de la réalité, on verra à la fin des Jeux pour savoir à combien tout ça s'est élevé. Enfin, pour l'instant, il semblerait que nous sommes dans l'organisation la moins chère des Jeux d'été et la plus écolo également, ce qui nous ferait peut-être, éventuellement, de bonnes nouvelles. Est-ce que les Jeux olympiques d'été sont rentables ? Je dis d'été hein, parce que ceux d'hiver ne le sont généralement pas. Enfin, on n'en sait rien, personne ne veut nous donner les chiffres. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas grand-chose à faire avec les infrastructures restantes. Alors, pour ce qui est des Jeux d'été, ça dépend des pays. La Grèce a mis 30 ans à se remettre du coût de l'organisation de ces Jeux. Le Brésil n'en est pas sorti. Mais globalement, c'est rentable. Les Jeux de Los Angeles ont eu un bénéfice de 220 millions d'euros. 10 millions pour Atlanta, 145 millions pour Pékin. Londres est restée dans ses frais et profite encore des infrastructures construites pour l'événement. Et enfin, Sydney remporte le jackpot avec un bénéfice de 1,7 milliard d'euros. Alors eux, leurs Jeux, ils les ont grandement kiffés. Et n'oublions pas, grâce aux Jeux, les Parisiens vont bientôt pouvoir se baigner dans la Seine. Enfin, 3 bases navales ont été construites. Ce n'est pas toute la Seine qui est dépolluée, faut pas déconner non plus. Mais Madame Hidalgo, accompagnée de Macron, devrait y plonger le 23 juin. J'ai hâte de voir ça. Vous vous souvenez de Chirac ? Il avait dit qu'il s'y baignerait. Mais pas fou, il n'y a jamais foutu un orteil. Mais bon, cette fois, comme des athlètes devront y plonger, il y a intérêt qu'Anne et Manu sautent aussi. Alors évidemment, les Jeux, c'est le moment où tous les athlètes du monde entier se rassemblent et tout le monde il s'aime et tout le monde il est beau. Sauf que le CIO a dit qu'aucun drapeau, aucun hymne, aucune couleur, ni aucune autre identification de quelque nature, que ce soit de la Russie ou du Bélarus, ne seront présents aux Jeux Olympiques de Paris. Et seuls les athlètes qui ont démontré leur virginité politique, c'est-à-dire l'absence de soutien à l'invasion de l'Ukraine ou d'attache avec les forces de sécurité et militaires, comme cela peut être le cas avec les clubs de football du Dynamo Moscou et du CSKA, seront acceptés. En gros, quand vous verrez des athlètes avec des drapeaux neutres, c'est des Russes. L'autre éléphant dans la pièce, qu'on ne saurait donc ignorer, c'est la participation des athlètes femmes transgenres. Je dis femmes parce que les femmes devenues des hommes dans les sports, elles n'arrivent pas à se qualifier chez les hommes. Donc, pour les femmes transgenres, ce sera aux fédérations sportives d'établir leurs propres critères pour permettre aux femmes transgenres et intersexes de concourir à haut niveau. Ainsi, la Fédération internationale d'athlétisme a décidé que ces dernières seront bannies des compétitions féminines, considérant que les preuves que les femmes trans ne conservent pas un avantage sur les femmes biologiques sont insuffisantes. C'est un sujet délicat et pour l'instant, ça se débat encore. Il semblerait que pour la Fédération de cyclisme, des femmes transgenres participeront. À voir. Quoi d'autre ? Ah oui, ils ont les lits antisexes. Enfin, pourquoi antisexes ? parce que comme ces lits sont en carton et très écolo par ailleurs, on a pensé qu'ils n'étaient pas assez solides pour les disciplines non représentées au JO, si vous voyez ce que je veux dire. Mais la vérité, c'est qu'on peut y faire du trampoline à 3, à 4, voire jusqu'à 5 personnes. En tout cas, ça supporte tout à fait bien le poids de plusieurs personnes, enfin, quand ils sont debout. Moi, pour moi, c'est vraiment plus des lits faits pour le sexe. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'une place pour s'allonger. Et si vous voulez être à deux dessus, bah, à moins de s'emboîter, je ne vois vraiment pas comment vous pouvez tenir. Allez, légende urbaine. Bon, voilà en gros pour les Jeux Olympiques. Revenons aux vacances. Sachez que même hors période de crise, environ 40 à 45% de la population, enfants compris, ne part pas en vacances. Le taux de départ en vacances a peu évolué au cours des 30 dernières années. Il était de 61% en 1989 et 64% en 2019. Les raisons du non-départ en vacances sont des raisons d'ordre financière. Il ne faut pas se leurrer. Depuis les congés payés, il reste tout de même une grande partie de la population qui est bien trop pauvre pour partir. Certains font le choix de ne pas partir, pour juste profiter de leur temps de repos, pour lire tranquillement, s'occuper de leur jardin, repeindre leur cuisine, bref, faire des trucs qu'ils n'ont pas le temps de faire le reste de l'année chez eux. Ou juste rien faire, c'est bien rien faire aussi. Pour ceux dont les raisons de ne pas partir sont d'ordre financier, on a tout de même la chance d'avoir un beau pays. Autour de chez soi, il y a des choses à voir. Même loin de la montagne ou de la mer, il y a des forêts domaniales, des parcs où l'on peut pique-niquer. Il y a des festivals un peu partout en France. L'été, c'est le moment aussi de découvrir des associations, des lieux autour de chez soi. Alors, tout ce que je vous souhaite, que vous partiez en vacances ou pas, par choix ou par contrainte, c'est de tout de même profiter un max du beau temps, de regarder autour de vous, d'explorer votre monde, de bien vous ressourcer et de vous vider la tête pour qu'on se retrouve à la rentrée tous en pleine forme. Bel été à toutes et à tous.
J'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles. Et les dieux sont ravis. Enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été. Enfin l'été, mais y a déjà plus d'argent. Le tout Paris se transforme en phobie. Le métro surtout devient purulent. Dans ses souliers, le passager abruti. Adéquaté qui s'exprime violemment. Il y a plus d'amis, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. Superflu, il fait trop chaud, le soleil m'a pas ourdi. Riez sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui seront chiés dans le lit. Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus. Tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aiguillé. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Même dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles et les vieux sont ravis.
C'était Voilà l'été des négresses vertes. Et maintenant, une petite devinette. Pourquoi dit-on prendre ses jambes à son cou ?
Moi, j'ai une idée. C'est pour changer de taille. Je m'explique. Si je fais 1m70, si je prends mes jambes à mon cou, je fais 80 cm pour gagner de la place.
Ouais, mais t'auras la tête dans le cul.
Peut-être une position de yoga et après ça s'est transformé.
Bah oui, c'est une nouvelle.
Ça
nouvelle,
doit être ça.
La position de yoga, c'est un travail qui est fait dans le cirque grus, un truc comme ça, c'est pour sens contorsionniste.
C'est gênant. Hein. Pour la dernière, c'est hyper gênant. Hein.
Sauf que prendre ses jambes à son cou, ça veut dire se barrer vite fait. Du coup, ça n'a aucun sens, cette expression, quand on y pense. Donc je me suis un petit peu penchée quand même sur la question, donc ça n'a rien à voir avec le yoga.
Pas quand trop. On a mal aux pieds et qu'on marche sur la tête.
Tu t'es pas trop penchée parce que...
Ouais, bien ça. Ouais. On sautille comme ça sur la tête.
Fais gaffe, hein.
Non, en fait, il y a une vraie raison. C'est qu'au 17e, il y avait un jeu de quilles, comme le bowling, des quilles de bowling, sauf que le bowling n'existait pas. Donc il y avait des quilles et on appelait ça des jambes. Et à la fin, les gens ramassaient leurs jambes, donc leurs quilles, et ils les mettaient autour du cou. Comme ça. Et donc, on prenait ses jambes à son cou. Et petit à petit, ça s'est transformé. Alors, à un moment aussi, on parlait de voyage parce qu'on prenait une sorte de musette qu'on mettait autour du col et on prenait ses affaires quand on partait en voyage. Et on disait prendre ses jambes à son col, parce que le col, c'était le cou. Et petit à petit, on a oublié la notion de voyage, la notion de jeu, et c'est de venir prendre la poudre d'escampette en réalité. Voilà, c'est juste ça la raison.
Wow, ouais, ben merci. C'était difficile à trouver.
Bah oui, parce que ça n'a pas de sens en fait. Voilà.
C'était fait, valsez vos idées. Ben, pour nous aussi, c'est la quille. Hein. Vous pouvez nous réécouter sur le podcast de Radio Escapade. On se rejoint aussi cet été en réécoute sur les ondes. Et on se retrouve probablement, même sûrement, même très très sûrement, en octobre pour la deuxième saison de Faites Valser vos idées. Petit message, Max est toujours disponible pour vous les filles, pour vous les mecs et pour tous les sextoys. Au 06 bip bip 30. Merci à Max, Mélanie, Lydia, Jean-Pierre et moi-même. Big bisous à toute la familia. Merci à Fabien pour la réalisation. À bientôt. Bisous, merci, bisous.
À bientôt.